France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Corinne Schneider.
Je suis Maren Alsop. Je suis chef d'orchestre. Je suis une maman et je suis heureuse.
Maren Alsop, nous avons bien compris que c'est l'élément collectif qui est important pour vous dans la musique, à tel point qu'après cette expérience que vous nous avez racontée de String Fever avec cet ensemble de musiciennes plus batterie, qui était un ensemble très créatif, vous fondez un ensemble bien plus important en 1984 à l'âge de 28 ans, après avoir économisé pas mal d'argent en jouant au violon, puisque le début de votre carrière, c'est le violon, vous économisez 10 000 dollars et vous trouvez un mécène en la personne de Monsieur Taki qui vous permet de fonder votre propre orchestre, l'Orchestre Concordia. Voilà une nouvelle aventure qui commence et qui va durer plus de 20 ans.
Oui, this is true that
c'est vrai que pendant l'aventure de String Fever, quand on jouait à droite à gauche dans les clubs de New York, j'aspirais toujours à devenir chef d'orchestre. Je prenais des cours et j'essayais de me perfectionner dans mon coin. Et j'ai eu la chance de commencer à gagner un peu de sous comme violoniste commercial. Je faisais beaucoup de séances d'enregistrement et j'économisais dans l'idée de créer mon propre orchestre. Et sur la base du répertoire dont j'étais tombée amoureuse à travers String Fever, le jazz américain, la musique autochtone de l'Amérique, qui bien sûr tourne beaucoup autour du jazz, du blues et du gospel. J'en ai fait le point focal, ça et aussi mon amour de la musique contemporaine et mon expérience avec les compositeurs avec lesquels je continuais de travailler. Et c'est devenu le cœur de notre répertoire et la marque de fabrique de Concordia. En 1984, personne ne proposait ce mélange de genres. Aujourd'hui, tout le monde le fait, mais pas en 84. Donc le public était curieux de venir nous écouter. Mais je dois revenir un peu en arrière. Avec mon groupe String Fever, on avait joué au mariage d'un homme d'affaires japonais. Je l'ai rencontré plusieurs fois pour préparer la musique du mariage et je le trouvais très intelligent. Très classe, un homme accompli. Alors après le mariage, je l'ai invité avec sa femme à prendre un verre et je lui ai dit, tout go, vous ne me connaissez pas et vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai un but dans la vie, devenir chef d'orchestre. J'ai besoin d'aide pour démarrer un orchestre. Il m'a répondu, Écoutez, je n'aime pas vraiment la musique classique, mais je vais vous aider. Et il a soutenu financièrement mon orchestre pendant près de 20 ans. Et à la fin, il n'aimait toujours pas la musique classique. Mais il était très fier de ce que nous avions accompli et de ce que j'avais accompli. Quand on a décidé d'arrêter Concordia, parce que j'étais trop prise par ma carrière, il m'a dit, nous avons atteint notre objectif. Vous êtes aujourd'hui la première femme au monde à diriger un grand orchestre. Il m'a regardée avant d'ajouter, mais les autres femmes, que comptez-vous faire pour elles? Et c'est ce jour-là que j'ai décidé de créer une bourse universitaire au nom de ce mécène. Elle s'appelle aujourd'hui la Taki Alsop Conducting Fellowship, mais elle s'est longtemps appelée la bourse Taki Concordia. J'ai voulu créer cette bourse pour donner des possibilités aux femmes et pour remercier Monsieur Taki.
Vous aviez commencé, Marine Alsop, avec le Concordia Orchestra, entouré de 35 musiciens. En 1990, il y avait déjà 50 musiciens. Et vous avez défendu la musique de compositeurs contemporains. Quels étaient-ils? De quelle musique exactement s'agissait-il? De jeunes compositeurs? Les compositeurs établis étaient-ils intéressés par ce que vous faisiez?
It was both.
Il y avait un peu des deux. Bien sûr, j'aimais beaucoup la musique des compositeurs avec lesquels je travaillais habituellement. Steve Reich, Philip Glass, ce genre de minimaliste. Mais je suis aussi tombée amoureuse du travail de compositeurs américains comme Christopher House, John Tower, Leonard Bernstein. J'ai joué beaucoup de Bernstein, probablement toutes ses œuvres. Et aussi ces compositeurs qui ont inventé le langage de la musique américaine, le langage du jazz. Ça m'intéresse. C'est beaucoup, il y en a tellement. Je lisais leurs biographies, j'écoutais les enregistrements de leurs œuvres. Il y avait ce compositeur afro-américain, James P. Johnson. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est lui qui est à l'origine du Charleston. Il voulait composer de la musique orchestrale, symphonique. Il a écrit une pièce pour orchestre qui a été jouée une seule fois en 1940 et on ne l'a plus jamais entendue depuis. Tout le monde disait, on ne trouve plus ces partitions, aucun enregistrement, tout s'est perdu. Alors avec ma meilleure amie, j'ai passé 6 ans à rechercher sa musique. Internet n'existait pas, nous avons dû aller en Californie pour retrouver ses descendants. Et bref, j'ai trouvé la musique. On l'a reconstruite, recopiée, tout enregistré. Et c'est maintenant une œuvre que les orchestres peuvent jouer. C'est une manière pour moi, je crois, de donner en retour. C'est de la belle musique américaine, écrite par un compositeur afro-américain qui a été discriminé de son vivant. Et aujourd'hui, enfin, des orchestres jouent la musique de compositeurs noirs.
Continuez à à prendre des cours de direction à cette époque-là avec un autre maestro qui est Harold Faberman, qui lui était un élève en composition de Aaron Copland. C'était aussi un compositeur très intéressé par la création. Nous sommes dans les années 1985 parce que vous avez toujours en tête de rentrer à la Juilliard School en direction d'orchestre. Alors, ce nouveau maître, qui est d'ailleurs un très grand pédagogue, il a laissé un traité de la technique de direction, n'est-ce pas, Harold Faberman, que vous a-t-il transmis à ce moment-là?
I met Harold Faberman at a...
J'ai rencontré Harold Faberman lors d'un stage d'été des directions d'orchestre. Après ma première leçon avec lui, j'étais prête à abandonner. Il n'était pas très encourageant. Mais j'ai vu qu'il avait quelque chose d'important à m'enseigner. Alors j'ai pris des cours avec lui une fois par semaine à New York. Il était excellent en technique. Et il m'a vraiment fait réfléchir à la gestuelle des indications musicales. Au lieu de juste battre la mesure ou se contenter de diriger, il m'a appris que nous pouvions incarner la manifestation physique de la musique. Ce fut une période très importante pour moi. Et parallèlement, j'essayais d'intégrer le troisième cycle de direction d'orchestre de la Juilliard. Je me suis présentée plusieurs fois, trois ou quatre fois. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. J'étais finaliste à chaque fois, mais je n'ai jamais été admise. Et c'est vraiment ce qui m'a poussée à investir dans Concordia, créer mon propre orchestre. Et j'ai décidé que pour ce métier, l'école ne serait pas mon chemin. Je devais travailler par moi-même et c'est ce que j'ai fait.
Est-ce que vous nous transmettez cela aujourd'hui parce que la porte de la Juilliard, de l'institution, s'est fermée pour vous du point de vue de la direction, donc a posteriori, ou parce que c'était vraiment votre cheminement à l'époque?
You know, I'm very determined and...
Je suis très déterminée, persévérante. Mais quand je comprends qu'une porte est fermée, j'essaye autrement. Il y a toujours un autre moyen, toujours. Il faut être créatif et sortir de sa zone de confort. C'est le meilleur des apprentissages. Être obligé de trouver une alternative, un autre chemin. J'aime dire à mes étudiants, notamment aux femmes, vous frappez à la porte, vous insistez, elle ne s'ouvre pas, eh bien faites le tour par derrière et entrez par la fenêtre.
Voici une autre manière d'avancer, c'était votre participation, Marine Alsop, en 1988, au fameux programme d'été de l'Orchestre symphonique de Boston à Tanglewood, où Leonard Bernstein vous a fait un formidable accueil. Ça n'était pas la première fois que vous le rencontriez, Bernstein.
No, I met him for the first time.
Non, je l'ai rencontré pour la première fois. En fait, je l'avais rencontré à plusieurs reprises quand j'étais très jeune. On me présentait à lui, mais il me terrifiait. J'assistais souvent à ses répétitions et je l'observais à distance. La première fois que je l'ai rencontré en tant qu'étudiante en direction d'orchestre, c'était en 1987 au festival du Schleswig-Holstein. Nous étions une dizaine de chefs à avoir été sélectionnés pour y diriger devant Bernstein et il devait en choisir deux pour faire un concert avec lui. Et bien sûr, il ne m'a pas choisi. Ça m'a brisé le cœur. Je croyais ma vie finie, ma carrière terminée. Mais rétrospectivement, il existe une vidéo sur YouTube de cette première rencontre, de lui avec moi. On peut la voir en ligne.
Before the piano each time.
Each time, not this
and
time.
This one.
I think not.
Well,
yes.
Why
I think
not?
So.
Why not all the time?
Why is this such a surprise? A beautiful, warm.
See, you cut this off.
Yes.
There's a hole.
He was so sweet to me.
Il était si gentil avec moi. Contrairement à mon souvenir, je l'avais vécu comme un échec, mais c'était pas ça du tout. Il s'est montré très bienveillant.
I do the ornament differently too, but we'll talk about that.
Okay, good, wonderful.
In days to come. All right.
So I'm trying. Am I allowed to tell? I'm trying to no space before we go on to the piano after the first fermata.
And I stayed the whole week to watch.
Je suis restée toute la semaine pour le regarder travailler et apprendre de lui à distance. Et l'été suivant, quand j'ai été acceptée comme chef assistante à Tanglewood, il est arrivé en demandant où est Marine, parce qu'on parlait de moi. Et il m'a dit, ah, mais je vous connais, non? J'avais tellement peur qu'il ne m'aime pas s'il se souvenait de moi. Alors j'ai fait mine de rien. Je n'ai rien dit. C'est drôle parce que je croyais qu'il avait oublié cette première rencontre. Je dirigeais la deuxième symphonie de Beethoven. Et un an plus tard, je me rendais au Japon avec lui. Je devais ouvrir le concert avec la première symphonie de Beethoven. Et un de ses assistants m'a appelé pour me dire, vous savez, Lenny aimerait vous revoir dans la deuxième symphonie de Beethoven. Donc j'ai compris qu'il savait depuis le début, il se souvenait. Mais il y avait ce petit jeu entre nous.
Retenez de Bernstein et de ses étés à Tanglewood. Vous avez 32 ans, il y a le répertoire, je suppose, et puis il y a sa personnalité. En quoi vous a-t-il marqué ?
It's very difficult for me to articulate.
J'ai du mal à trouver les mots qui expriment l'importance pour moi de cette relation. Je l'avais idéalisé depuis l'âge de 9 ans. Tous les jours, je pensais à Leonard Bernstein. Et je le voyais à la télévision, en répétition à New York et dans les concerts. Alors pour moi, c'était une immense émotion. Et il s'est montré si bienveillant, si généreux, si affectueux, chaleureux envers moi. Enfin, exigeant aussi et redoutable, tout ça, mais... C'était un tel bonheur de découvrir que mon héros, l'idole de ma vie, était encore plus génial que je pensais. Et loin d'être déçue, j'étais enchantée d'apprendre à le connaître.
And the thing, of course, I could share is that
Ce que je peux vous confier, c'est que, bien sûr, j'adorais parler musique avec lui, tout ce qui touchait à la musique, formidable. Mais j'aimais parler de tout avec lui. C'était un grand citoyen du monde. Il s'engageait pour ses convictions. Il se servait de sa notoriété d'artiste, sa visibilité, pour prendre position et essayer de changer le monde. Vers la fin de sa vie, quand le mur de Berlin est tombé, il était là avec la 9e de Beethoven, devenue l'ode à la liberté, Freiheit. Et il était aux côtés des Black Panthers, il levait des fonds pour eux. Et le voir si courageux, tellement animé par ses convictions, m'a beaucoup inspiré sur le plan humain.
Ces années 1980 et la fin des années 1980, c'est notamment le moment où vous vous préparez au fameux concours, le grand concours Stokowski, où vous êtes finaliste. Vous ne remportez pas le prix, mais c'est un moment très important de votre carrière qui va faire tout de même basculer votre renommée aux États-Unis.
Oui, ma participation au concours Stokowski m'a placé sous le feu des projecteurs et donné une grande visibilité. Je n'ai pas remporté le concours, mais comme je le dis à mes étudiants, je n'ai jamais gagné un seul concours. Et on ne participe pas à un concours pour gagner. On le fait pour rencontrer des gens et faire de la musique. Voilà. Donc je n'ai pas remporté le premier prix, mais j'ai reçu un énorme soutien de la part du New York Times. Ils ont écrit un grand article, et de la part des musiciens et des membres du jury. Certains m'ont d'ailleurs proposé mes tout premiers engagements professionnels comme chef. Aujourd'hui, je suis ici à Paris en tant que membre du jury d'un concours important, et plusieurs de mes étudiantes se présentent, des lauréates de la bourse Taki, et je me dis, j'espère qu'elles vivront une belle expérience, qu'elles seront heureuses de se rencontrer et de faire de la musique ensemble. Et si aucune ne gagne, c'est pas grave.
Hallelujah, hallelujah.
L'important n'est donc pas la compétition pour Marine Alsop, mais les rencontres et les opportunités offertes par les expériences musicales partagées. Et c'est avec l'Alléluia de la messe de Leonard Bernstein que s'achève ce deuxième volet des grands entretiens de la chef d'orchestre américaine, une série réalisée par Gilles Blanchard, avec Michel Gassic à la prise de son, Cédric Châtelus au mixage et Ève Dair à la traduction. À demain pour le troisième épisode.
À réécouter sur francemusique.fr.